Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine du 26 mars déjà 2018. Matinée quand même agréable à l'extérieur avec du beau soleil, c'est le scénario pour aujourd'hui, alors profitez-en au maximum et surtout soyez prudents dans vos déplacements. Mon nom est Claude Blas, j'espère que vous êtes quand même bien réveillés pour écouter nos différents collaborateurs nous livrer les articles à laquelle ils ont travaillé très très fort cette semaine. Et on commence tout de suite avec Franceline Nieuviard. Comment allez-vous ce matin?
Oui, bonjour. Oui, ça va bien. Écoutez, donc, mon premier article est l'éditorial du journal L'Itinéraire du 15 mars 2018, qui s'intitule « Plus ça change, moins c'est pareil ». Monk, qui est la rédactrice en chef du journal L'Itinéraire. Et le deuxième article parlera de la municipalité de Saint-Bruno de Montarville, que Roger connaît bien puisqu'il y habite, il me semble. Et j'ai trouvé ça dans la revue Le Bel Âge. C'est un article sur la municipalité à l'écoute. Vous allez voir ce que fait cette municipalité pour ses aînés.
Je vais probablement apprendre des choses.
Ah, oui. Sûrement, oui. Sûrement, Roger.
En plus, malgré le fait que tu restes là-bas.
Ouais, oh, oui, ça faisait ça. Oh, oui.
Alors, celui qui vous parle, c'est Roger Roy.
Oui, c'est ça.
Comment allez-vous ce matin?
Nous allons très bien, nous allons très bien. J'ai deux textes. Le premier, c'est « À qui appartient la ville? » La ville de Montréal. On parle de gentrification. Un terme qui apparemment est impropre, mais on l'utilise quand même.
Ah, d'accord.
L'embourgeoisement des quartiers. Et le deuxième, c'est très sérieux. Ce sont des collections très spéciales, des musées très spéciaux. Par exemple, à Boston, il y a le musée de l'art mauvais, ou encore à Paris, le musée des vampires. Mais il y en a un autre qui nous arrive de Croatie, qui s'appelle le musée des relations brisées.
Et vous allez nous parler de tout ça?
Oui.
Ah, OK. Non, il cache son livre. Quand même. De mon côté, deux articles sur la santé. Un, tout d'abord, que j'ai retrouvé sur le site, en fait, Internet, qui est Santé Magazine, qui se titre « Les perturbateurs endocriniens, une menace pour notre intelligence ». Allez voir, un article très intéressant. Et deux autres articles que j'ai retrouvés sur la presse. Entre autres, on parle de surpoids qui pourrait devenir la première cause du cancer. Et deux études qui mettent à mal la théorie d'un bienfait sur l'obésité. Alors voilà, ce sont nos articles dans les prochaines minutes. Et nous revenons tout de suite avec Franceline. C'est pas bien, j'avais pas ma lumière devant moi. Alors, Franceline, comme premier article.
Oui, alors, donc, plus ça change, moins c'est pareil. C'est ce qu'écrit José Panérémon dans l'éditorial du journal L'Itinéraire du 15 mars 2018. Bonne nouvelle, le taux de chômage au Québec n'a pas été aussi bas depuis des décennies. Il est effectivement à 6%. On peut donc réalistement parler de plein emploi. Mais moins bonne nouvelle cependant, la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans différents secteurs du marché du travail s'accentue. Les plus vieux partent à la retraite, il n'y a pas assez de jeunes pour combler tous les postes et les travailleurs qualifiés manquent à l'appel. Nous en sommes là, dans le grand cycle démographique. Ça fait des années qu'on en parle, mais la réalité éclate aujourd'hui. La génération des baby-boomers, soit une personne sur cinq au Québec, a atteint et même dépassé l'âge de la retraite, selon les barèmes établis par le gouvernement. En effet, jusqu'à tout récemment, à 65 ans, on arrêtait généralement de travailler pour se la couler douce, voyager, s'adonner à des loisirs, s'occuper des petits-enfants et jouir des années menant vers la grande vieillesse. Mais la donne a changé. Aujourd'hui, on vit plus vieux. On atteint les 85-90 ans souvent en bonne santé et encore capable de contribuer à la société. D'ailleurs, de plus en plus de gens qui ont pris leur retraite à 55-65 ans retournent sur le marché du travail, soit qu'ils s'ennuient ou soit que leur situation financière est devenue précaire. Et il faut se demander, que faire de toutes ces années qui restent? Que faire de toute cette expérience de travail et de vie accumulée? Beaucoup ont compris qu'il faut une raison de se lever le matin, d'être utile et de participer activement à la vie économique et sociale du Québec. Redonner à la société et à ceux qui suivent, d'autres s'en rendent compte seulement lorsque leur qualité de vie diminue avec le désœuvrement et les finances amoindries. Bien sûr, à 60, 65 ou 70 ans, l'énergie et le goût d'abattre des semaines de 40 heures ne sont plus au rendez-vous. Mais travailler quand même l'est. On préfère travailler moins et ainsi profiter de quelques jours de la semaine pour profiter de loisirs et de repos. Bon nombre de pré-retraités ont opté pour la formule de réduction des journées travaillées. Règle générale, les sexagénaires travailleront 4 journées plus longues pour pallier le manque à gagner salarial et s'accorder une journée de congé de plus. Une amie de 66 ans en est là. Elle travaille 4 jours, mais aimerait bien réduire sa semaine de travail à 3 jours. Son entreprise acceptera-t-elle cette proposition? Si oui, cela impliquera un réaménagement au sein de l'équipe de travail, une répartition des salaires, une nouvelle façon d'opérer, tant au niveau organisationnel que financier. Elle est un exemple, mais combien de travailleurs sexagénaires se retrouvent dans cette situation? Peut-être un grand changement dans ce sens s'effectuera tout naturellement avec la pression démographique qui l'imposera. Chose certaine, on en discute depuis déjà plusieurs années. Parmi les adeptes de ce nouveau monde du travail, le géant des télécoms mexicains Carlos Slim, le 2e homme le plus riche au monde, avance dans un article du Figaro écrit en 2014 que les gens vont être obligés de travailler plus longtemps jusqu'à leurs 75 ans. Il serait donc préférable qu'ils fassent des semaines de 3 jours, à raison de 10 heures par jour. Selon lui, cela engendrerait une force de travail plus saine et plus productive, tout en abordant les problématiques liées à la longévité. L'idée n'est pas nouvelle. Déjà en 1930, l'économiste britannique John Maynard Keynes proposait la semaine de 15 heures. Par contre, il estimait que les gens s'ennuieraient tellement qu'il faudrait répartir le travail autrement. Nous en sommes là. Comment arriverons-nous à répartir les journées de travail pour les plus âgés, tout en laissant aux jeunes toute la place qui leur revient? Et c'est sans oublier les laissés pour compte de la société, ceux et celles qui sont traditionnellement éloignés du marché. Ces hommes et ces femmes arrivent de plus en plus à se réintégrer grâce aux entreprises d'économie sociale, une force économique de plus en plus présente au Québec et dans le monde. Alors c'est pourquoi, avec toutes les questions qui sont posées ici, que l'itinéraire a concocté dans ce numéro donc du 15 mars 2018 un dossier intitulé « Va-t-on manquer de chômeurs au Québec ?» Et on retrouve différents articles. Et pour terminer, je voudrais donc vous lire la fin d'un article sur le chômage qui donne des pistes de solutions. Par rapport au chômage, il n'y a pas de remède miracle pour réduire encore plus le chômage, mais une série d'avenues complémentaires doivent être explorées et accepter qu'elles prendront du temps à donner des résultats. Inévitablement, face aux pénuries de main-d'œuvre et afin d'améliorer leur compétitivité, des entreprises vont pousser leur automatisation en investissant dans les machines et les technologies de l'information. On devra également mieux intégrer les travailleurs immigrants, en reconnaissant leurs diplômes, en facilitant l'accès aux cours de français et en cherchant à retenir une partie des étudiants étrangers qui sortent des universités québécoises. Il faudra aussi inciter les personnes en bonne santé à rallonger leur carrière, ne serait-ce qu'à temps partiel. Toutes ces approches sont nécessaires mais insuffisantes. Pour s'attaquer au chômage structurel, les plus grands efforts devront porter sur l'éducation à tous les niveaux et à tous les âges. Dans une économie du savoir, il faut former davantage de docteurs en intelligence artificielle, mais aussi s'assurer que plus de jeunes terminent leur secondaire, car on aura toujours besoin de plombiers et les robots ne donneront pas les bains dans les résidences pour personnes âgées de sitôt. Les apprentissages requis ne se limitent pas aux bancs de l'école, mais doivent se poursuivre tout au long de la vie, en entreprise et dans d'autres milieux, comme les entreprises d'économie sociale ou les organismes qui luttent contre l'analphabétisme trop répandu au Québec. Et enfin, l'amélioration des compétences est nécessaire pour les professionnels, mais elle doit également rejoindre les exclus du marché du travail, qu'il faudra réintégrer patiemment un à un en tenant compte de leur situation particulière. Sur le plan économique, le Québec a besoin de mobiliser toutes ses ressources humaines et sur le plan social, il n'y a pas de meilleur programme de soutien aux revenus qu'un emploi. Voilà, donc c'était l'éditorial et, du journal itinéraire du 15 mars 2018, écrit par José Raymond Panet.
Alors, les personnes qui sont un peu plus âgées, s'ils veulent continuer à travailler, ils ont de la place encore, hein?
Absolument.
Effectivement. On va revenir dans quelques instants avec Roger. De l'art. Vous voulez nous parler de collection?
Une collection, oui, c'est ça, mais très spécial.
Oui.
J'ajouterais très, très spécial.
D'accord, on vous écoute.
C'est un texte de Tim Halls qui paraît dans la sélection du Reader's Digest du mois d'avril. Dans un recoin tranquille d'un palais de Zagreb en Croatie du 18e siècle, le palais, une chenille de feutre multicolore de 30 cm de long est posée sur un socle blanc. Certaines de ses pattes sont détachées et gisent tristement à côté d'elle. Non loin, sur un carton, on peut lire « J'avais ce grand amour, une relation à longue distance, Sarajevo-Zagreb. Cela a duré 20 mois. Nous rêvions de passer notre vie ensemble, et j'ai acheté cette énorme chenille dans cette idée. Chaque fois qu'on se voyait, on lui arrachait une patte. Nous devions commencer à vivre ensemble lorsqu'il n'y en aurait plus de patte. Hélas, comme c'est souvent le cas, avec les grandes histoires d'amour, la relation a pris fin et la chenille n'est jamais devenue totalement invalide. La chenille et le triste récit qui l'accompagne ne sont qu'une pièce parmi la centaine d'autres du musée des relations brisées, une capsule temporelle où sont réunies des histoires d'amour au destin tragique. Chaque objet raconte une histoire, parfois très courte. Un grille-pain est accompagné de ces mots. « Quand j'ai quitté la maison et déménagé à l'autre bout du pays, j'ai emporté le grille-pain. Ça t'apprendra. Comment pourras-tu griller quoi que ce soit désormais? » Parfois, des histoires sont plus longues. Romances de vacances condamnées, premières amours, liaisons au travail. Les objets même sont souvent très ordinaires, un rouleau à pâtisserie, une robe de mariée. Mais leur récit est tour à tour drôle, tragique et même parfois effarant, pour ne pas dire effrayant. Cette hache, par exemple, une hache, quelque chose qu'on sert pour couper. Quand sa compagne l'a quittée pour une nouvelle conquête, une Allemande s'en est servie pour détruire chaque jour d'absence, un des meubles de son ex-petite amie. Plus sa chambre se remplissait de meubles en miettes à l'image de mon cœur, mieux je me sentais, a-t-elle écrit. Dans une petite vitrine juste à l'entrée du musée se trouve un objet particulièrement important. C'est un lapin en peluche blanc et duveteux accompagné du texte. Le lapin devait faire le tour du monde, mais n'a jamais dépassé l'Iran. Il appartenait autrefois au fondateur du musée des relations brisées, Olinka Vistika et Drazen Grubizik. Les deux artistes avaient décidé que si l'un d'eux voyageait seul, il emporterait le lapin à la place de son partenaire. Ils se sont séparés au bout de 4 ans. Et le lapin a changé de rôle, devenant la pièce fondatrice d'un musée d'un tout nouveau genre. Lorsque leur relation a pris fin, ils ont eu d'interminables discussions jusque tard dans la nuit pour savoir que faire des résidus d'une histoire d'amour. Une de leurs idées, folles, était de créer un musée de leur bric-à-brac sentimental, mais ils l'ont mise de côté. Puis en 2006, 2 ans après leur rupture, Drazen cherchait des idées pour une installation artistique à Zagreb. Il s'est souvenu du projet et a appelé Olinka. Il s'agissait de tenter de créer un espace où nous pourrions entreposer de manière poétique tout l'héritage émotionnel de relations terminées, explique Olinka. Nous avons pensé que la meilleure façon de représenter cela était d'utiliser un objet partagé et l'histoire qui y est rattachée, comme nous étions nous-mêmes entourés d'objets portant chacun sa propre histoire. Les deux anciens amants ont alors écrit à leurs amis et leurs proches pour rassembler des pièces à exposer qu'ils ont installées dans un vieux conteneur de fret à l'extérieur de la galerie d'art. Le musée des relations brisées était né, sauf qu'il n'était pas préparé à la réaction du public. Pour moi, ce n'était qu'un projet artistique de plus. Je pensais le réaliser et passer à autre chose, raconte Drazen en riant. Et puis ça a commencé à prendre vie, et nous avons suivi. L'exposition très populaire a attiré l'attention des médias internationaux. Nous ne nous y attendions absolument pas, ajoute Olinka. Quand l'agence Ruter nous a appelés en nous demandant de leur parler de l'inauguration du premier musée des relations brisées à Zagreb, nous avons répondu « Non, C'est juste un conteneur avec 40 objets dans la cour d'une galerie d'art, et ça ne va pas y rester bien longtemps. Il y a eu un effet boule de neige et l'affaire a pris beaucoup d'ampleur. Une fois terminée ici, l'exposition a amorcé une tournée dans de grandes métropoles comme New York, Londres et Berlin, mais aussi dans des villes beaucoup plus modestes comme Kilkenny en Irlande et Whitehorse au Yukon. Et ce n'est pas fini. En 2009, Olinka et Drazen ont fait un emprunt pour financer l'exposition permanente de leur collection à Zagreb, le gouvernement ayant trouvé l'idée trop bizarre pour la subventionner. Ainsi est né le premier musée privé de Croatie, devenu depuis l'un des attraits les plus populaires de Zagreb. Les deux fondateurs, qui restent bons amis, emploient désormais 20 personnes et ont récemment supervisé la création d'un second musée à Los Angeles. Ils reçoivent de nouveaux objets accompagnés de leur histoire deux ou trois fois par semaine. Dans un dépôt sont entreposées plus de 2500 pièces attendant leur moment de gloire. Il s'agit pour eux d'une entreprise artistique en évolution. Ce musée n'est pas le seul du genre. Il existe d'autres musées déjantés, comme on dit dans le texte. Le musée de l'échec fondé par Samuel West, par exemple, c'est un Américain qui vit en Suède et qui a visité ce musée des relations brisées, a fondé ce musée. On y parle des grands flops comme le nouveau Coke, mais aussi de l'échec de produits dérivés moins connus de grandes marques comme le parfum Harley-Davidson. Ça a l'air que ça a fait patac. Et les plaques surgelées Colgate, les Colgate Kitchen Entrée, ou des gadgets dont personne ne veut, comme le masque facial électrique rejuvénique. Ce masque rajeunissant, tout droit sorti d'un film d'horreur, envoie de petites décharges électriques dans le visage de l'utilisateur. Ça n'a pas fait fureur non plus. L'un des échecs préférés de Samuel West est la gamme Wow de chips de la marque Frito-Lay, fabriqué avec de l'olestra, un substitut de graisse sans coloris qui peut provoquer la diarrhée. Vous ne grossirez pas, mais vous risquez de passer un moment aux toilettes, plaisante-t-il. D'autres musées qui sont un peu excentriques, là, déjantés, comme ils disent dans le texte. Le musée de l'art mauvais. C'est au Massachusetts, aux États-Unis. C'est un musée privé réunissant 500 œuvres d'art trop mauvais pour être ignorées. Parmi ces pièces remarquables se trouve la Mona Lisa. Alors, on voit une peinture qui ressemble un peu à la Mona Lisa, avec des couleurs un peu barbares, du vert très, très, très vert, vert bouteille, là. Et surtout le visage qui ressemble au Christ qui aurait la couronne d'épines là, sur la tête. Ça ne ressemble pas du tout à la vraie Mona Lisa. Ça s'appelle la Mona Lisa. Et l'autre, c'est le musée des vampires à Paris. Le seul musée des vampires au monde, niché avec beaucoup d'à-propos dans une rue glauque de Paris et administré par le vampirologue autoproclamé Jacques Sirgent, qui est professeur d'anglais le jour. Alors, il y a toutes sortes de musées. Il y en a des bons, il y en a un petit peu moins bons.
Oui, effectivement.
Peut-être.
Mais ça peut être cocasse d'aller visiter ces musées-là.
Ben, 500 articles.
Oui, quand même.
Si vous avez une relation brisée. Là.
Et pour les inventions manquées, je pense qu'ils peuvent aller dans le oui, temps. Hein. On en a beaucoup d'inventions manquées. On vous revient tout de suite après la pause musicale. Merci, Roger.
Emmène-moi comme autrefois. si loin tout ça pour toi. Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris? Une fois de temps en temps, le cinéma de quartier, après c'était le restaurant, oubliant les cafés, envahis et troublés. En revenant chez nous, pas un mot entre nous, on se retrouvait très loin. Je crois, tout au bout du monde, on s'oubliait très loin, à peine quelques secondes. Emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde. Est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris?
Marie-Denise Pelletier qui reprend, oui, Claude Léveillé, Emmène-moi au bout du monde.
Merci beaucoup. Article que j'ai trouvé sur lapresse.ca, donc sur le site Internet, qui nous parle d'obésité et un premier article qui a été publié le 16 mars dernier qui vient de l'agence France Presse. Et on dit ce qui suit après le titre « Deux études mettent à mal la théorie d'un bienfait de l'obésité ». En fait, c'est deux études, dont une britannique publiée vendredi, mettent à mal la théorie controversée du paradoxe de l'obésité, selon laquelle le surpoids pourrait être un bienfait pour la santé du cœur. L'étude britannique, parue dans la revue European Heart Journal, a porté sur les dossiers médicaux de près de 297 000 adultes entre 2006 et 2010. Les chercheurs de l'Université de Glasgow ont montré une corrélation entre le surpoids, mesuré grâce à l'indice de masse corporelle, ce qu'on appelle communément le IMC, et au tour de taille et le risque de maladies cardiovasculaires. L'IMC des personnes courant le moins ce risque est aux environs de 22 à 23, ce que les médecins appellent une corpulence normale. Au-delà, le risque augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Une étude américaine publiée fin février dans JAMA Cardiology avait abouti aux mêmes conclusions. Elles établissaient aussi une corrélation entre la corpulence de plus de 190 000 personnes mesurées entre 1964 et 2015 et leurs maladies cardiovasculaires. Par rapport à des individus à l'IMC normal, défini comme étant compris entre 18,5 et 24,9, les risques d'incidents cardiovasculaires au cours de la vie ont été plus élevés chez les adultes d'âge moyen pour les personnes en surpoids ou obèses, écrivaient les chercheurs de l'Université Northwestern à Chicago et Texas Southwestern à Dallas. Quelques travaux controversés assuraient à l'inverse que l'obésité pouvait être associée à une meilleure espérance de vie, surtout chez les personnes âgées. L'explication des observations faites par les tenants de ce supposé paradoxe de l'obésité pourrait venir, selon les auteurs britanniques, de facteurs qu'ils ont négligés. Par exemple, les fumeurs peuvent avoir un poids plus faible puisque le tabagisme diminue l'appétit. Une raison pourrait être que certaines personnes ont des maladies non diagnostiquées qui peuvent souvent leur faire perdre du poids, mais augmentent aussi la probabilité de mourir prématurément, ont-ils avancé. À état de santé égal, quand on est dans la zone du surpoids ou de l'obésité, perdre quelques kilos ou plus, si possible, ne fera qu'améliorer la santé, a souligné un professeur de médecine. Et l'autre titre, bien, on dit « Le surpoids pourrait devenir la première cause évitable du cancer ». On dit que le surpoids et l'obésité pourraient devenir les premières causes évitables du cancer au Royaume-Uni devant le tabagisme, selon une étude publiée vendredi par un institut de recherche britannique. L'étude montre que le tabac était responsable de plus de 54 000 cas de cancer au Royaume-Uni en 2015, et ça, c'est les derniers chiffres disponibles, soit 15 % des cas suivis par le surpoids à l'origine de 22 800 cancers, soit 6,3 % des cas. L'obésité et le surpoids peuvent causer des types de cancers variés, dont celui de l'intestin, du sein, de l'utérus ou des reins. Si l'on n'y prend pas garde, l'obésité pourrait surplanter le tabac, juge Harpal Kumar, le directeur général de Cancer Research UK, le plus grand institut indépendant de recherche sur le cancer au Royaume-Uni. Je pense qu'on observera ce changement au cours des 20 prochaines années, soutient-il. L'obésité pose une énorme menace à la santé publique et les choses vont empirer si rien n'est fait, s'alarme Linda Bold, chercheuse au sein de l'Institut. Le gouvernement doit s'inspirer du succès des campagnes de prévention contre le tabagisme pour réduire le nombre de cancers liés au surpoids. Pour Katrina Brown, l'auteur de l'étude, il est nécessaire de faire changer les attitudes à l'égard de l'obésité. Les gens perçoivent le fait d'être gros comme de plus en plus normal, explique-t-elle. C'est un changement de normes culturelles et nous devons transmettre le message sur les dangers que cela pose pour la santé. Au total, Cancer Research UK estime que près de 4 cancers sur 10, soit 37,7% des cancers, soit 135 500 cas en 2015, pourraient être évités en faisant évoluer les comportements. Après le tabagisme et le surpoids, l'Institut pointe notamment comme cause évitable de cancer l'exposition au soleil, qui compte pour 13 600 cas en 2015, la consommation d'alcool, qui compte pour 11 900 cas, et les régimes pauvres en fibres aussi, et la pollution atmosphérique. Alors voilà, ces deux articles que j'ai retrouvés sur le surpoids, donc un qui dit qu'il pourrait devenir la première cause évitable du cancer, et l'autre qui dément un petit peu les dernières études qui disaient que ça pouvait avoir un bienfait, l'obésité sur la santé, mais apparemment que c'est pas tout à fait vrai. Alors voilà, on vous revient à la deuxième partie de l'émission dans quelques instants.
Un petit matin, je ferai fondre des cendres.
décembre. Demain au petit matin, je ferai fondre des cendres. Demain au petit matin, je ferai fondre des cendres.
Extrait de l'album Le cœur dans la tête, c'était Ariane Moffat et la pièce dont vous avez peut-être reconnu le titre, Combustion lente.
Merci beaucoup. Alors, on va parler du patelin à Roger.
Oui, oui, je vais parler de Saint-Bruno de Montarville.
J'ai entendu parler. Vraiment des choses que je ne connais pas du tout.
Il ne faut juste pas donner votre adresse.
Non, non, non. Bien, chaque mois, donc, la revue Le Bel Âge met en évidence une municipalité amie des aînés, c'est-à-dire une municipalité qui a un projet original et, ou innovant pour les aînés. Et donc, ce mois-ci, le mois de mars 2018, je ne sais pas pourquoi je dis toujours mai, j'ai vraiment envie d'être au mois de mai, je pense. Enfin, donc, dans ce numéro de mars 2018, Saint-Bruno de Montarville, est donc mis en évidence et le titre c'est « Une municipalité à l'écoute ». Même si en 2017, elle a été déclarée « meilleure ville au Canada pour élever des enfants » par le magazine Money Sense, Saint-Bruno de Montarville n'oublie pas pour autant les doyens de sa communauté, bien au contraire. Devenue en 2013 une municipalité amie des aînés, elle s'est également dotée d'une politique familiale pour la période 2016-2019. Et donc, voilà. Un de ses objectifs, améliorer la qualité des services destinés aux citoyens de tout âge et favoriser l'inclusion. Parce qu'aux yeux de cette municipalité de la Montérégie, une communauté épanouie, c'est l'affaire de tous. Quand il est question du bien-être de ses citoyens, Saint-Bruno ne se contente pas d'entendre, elle agit. Après avoir recueilli les commentaires et suggestions des personnes malentendantes au sujet de la qualité du son dans les édifices municipaux, elle a décidé de surclasser les équipements auditifs de ces derniers. Ces besoins, exprimés lors de consultations publiques pour le plan d'action des aînés, ainsi que des rencontres avec le comité pour l'intégration des personnes handicapées, nous ont encouragés à poursuivre nos efforts visant à faciliter l'accessibilité de ces endroits, commente Joséphine Brunelli, responsable des plans d'action. L'installation d'un système d'aide à l'audition au centre Marcel Dulude, où se tiennent spectacles, expositions, concerts et autres activités, ainsi que l'intégration d'un système pour malentendants d'ECAD au chalet Marie-Victorin, utilisé pour des cours, des ateliers, des réceptions et activités administratives, c'était déjà donc avéré un franc succès il y a quelques années. La ville a donc équipé le centre communautaire et l'ancienne gare du même système d'ECAD, permettant ainsi aux usagers munis d'appareils auditifs de capter les sons provenant des haut-parleurs en syntonisant le 89.7. De nouveaux systèmes audio avec amplificateurs et haut-parleurs ont également été posés, y compris au chalet Marie-Victorin. Grâce à ces diverses mesures, les principaux intéressés ne perdent pas une miette d'un début ou du concert de leurs petits-enfants. L'initiative, dont l'objectif était d'encourager la participation des Montarvillois aux multiples activités offertes, a vite porté ses fruits. Les chargés de cours du club informatique Montbruno, par exemple, sont enchantés des améliorations acoustiques apportées au chalet Marie-Victorin. Ils apprécient le fait que ceux, parmi les 600 membres du club, qui ont des difficultés à entendre, puissent suivre les cours et y participer pleinement, même dans une grande salle comble, rapporte Joséphine Brunelli. Même son de cloche du côté de l'Université du Troisième Âge, qui donne des formations aux résidents de 50 ans et plus au centre communautaire. Ces émetteurs constituent des outils très aidants. Ici, on travaille à ce que la communauté soit tricotée serrée et que personne ne soit laissé pour compte. Il faut dire aussi que le maire de l'endroit, Martin Meuret, a l'habitude de tendre une oreille compatissante. J'imagine sans peine à quel endroit il peut être désagréable d'assister, par exemple, à une conférence et de ne pas pouvoir capter tout ce qui se dit. Ces mesures simples mais efficaces permettent heureusement de ne pas se sentir exclus. Aux yeux de notre municipalité vedette, petits et grands comptent autant. Saint-Bruno comprend un nombre important de jeunes familles avec, dans bien des cas, 3 enfants ou plus, explique Martin Meuret. En même temps, nous assistons à un accroissement de notre population âgée, comme partout au Québec. Ce qui explique pourquoi le plan d'action de sa politique familiale 2016-2019, élaboré à l'intention des familles, des enfants et des personnes aînées, vise, entre autres, à renforcer les liens intergénérationnels et à favoriser les échanges. Que chaque citoyen se sente entouré et soutenu est une priorité pour nous, dit Martin Meuret, le maire de Saint-Bruno de Montarville. Alors voilà, c'était un propos recueilli par Linda Presley dans la revue Le Bel Âge de mars 2018.
Merci beaucoup, Franceline. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, M. Roy, à qui la ville?
Oui, c'est ça. Alors, le journaliste Marc-André Sabourin a écrit ce texte qui paraît dans l'actualité du mois d'avril. Mmh. Il dit ceci en introduction. « En achetant et en retapant un duplex de parc extension pour loger ma petite famille, j'ai participé, malgré moi, à l'embourgeoisement d'un des quartiers les plus pauvres de Montréal. Suis-je un bon ou suis-je un méchant? » Alors, la réponse est tout en nuances, comme on va le voir. Alors, il écrit ceci pour commencer dans son texte. « Difficile de dire à quel moment je me le suis admis, certainement pas lors de notre emménagement dans le petit duplex montréalais que ma blonde et moi avions mis un mois à rénover. L'idée m'a effleuré lorsque mes voisins ont secoué la tête incrédule, en apprenant le prix payé pour l'immeuble. Et c'était assurément une arrière-pensée quand je me plaignais du faible choix de bières de microbrasserie dans les dépanneurs des environs. Mais aujourd'hui, près de 3 ans après mon arrivée à Parc Extension, l'un des quartiers les plus pauvres, les plus densément peuplés et les plus multiethniques du Québec, impossible de le nier, je suis un agent d'embourgeoisement, un gentrificateur. Je n'en ai pourtant pas le profil, ou du moins pas celui véhiculé par les médias et les activistes. Je n'ai pas expulsé de locataires, je ne bois pas de cordado, mes 2 enfants, lorsqu'ils en auront l'âge, iront à l'école publique. Si j'ai eu les moyens d'acheter, c'est grâce au train de vie modeste de ma petite famille de la classe moyenne. Et j'aime mon quartier pour ce qu'il est aujourd'hui, pas pour son potentiel. Parc Extension est surtout connu pour ses nombreux restaurants indiens, sa communauté grecque et, tristement, ses logements insalubres. Un simple passant peinerait à y déceler des traces d'embourgeoisement, mais quiconque y habite sent le changement, aussi naissant soit-il. Cela en fait un laboratoire fascinant pour observer un phénomène qui, loin d'être limité à mon voisinage, touche plusieurs quartiers de Montréal, de Québec, de Toronto, Vancouver et maintes autres villes occidentales. L'embourgeoisement, appelée à tort gentrification, transforme le paysage des villes en convertissant usines désaffectées et terrains vagues en forêts de condos où les cafés et restos branchés poussent comme des champignons. Cette « revitalisation » entre guillemets suscite des applaudissements de certains promoteurs, commerçants et élus. Mais le véritable changement, celui qui inquiète les militants et les groupes communautaires, touche les gens. Car bien plus qu'une métamorphose immobilière, l'embourgeoisement consiste en l'arrivée de classes socio-économiques plus aisées dans des secteurs pauvres, ce qui force parfois des résidents de longue date à quitter leur quartier devenu trop cher, et dans lequel ils ne se reconnaissent plus. D'où le débat houleux que suscite le phénomène partout où il frappe. Assise dans une pièce douillette que l'on imaginerait davantage dans sa maison que dans la tour grise de l'Institut national de recherche scientifique à Montréal, Damaris Rose me résume ce qu'elle a appris en 30 années à étudier l'embourgeoisement. Cette professeure née à Londres, où a été découvert le phénomène dans les années 1960, a été l'une des premières au Québec à s'intéresser au sujet et est aujourd'hui une référence mondiale en la matière. À ses yeux, aucun doute, l'embourgeoisement est d'abord et avant tout un phénomène économique. Des changements culturels sont bien sûr aussi à l'œuvre, vivre en ville est plus valorisé maintenant qu'il y a 40 ans. Mais la chercheuse en géographie urbaine affirme que l'embourgeoisement est surtout le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande. Des gens cherchent un endroit où ils ont les moyens de vivre, un besoin que comblent promoteurs et commerçants. Personne n'est foncièrement mal intentionné. Elle rit toutefois lorsque je lui demande s'il s'agit d'un phénomène naturel. Il fallait des interventions pour que d'anciens quartiers ouvriers très dégradés recommencent à attirer des gens. Il n'y a rien de naturel dans ça. Et ces interventions sont faites par un acteur fréquemment oublié dans le débat sur l'embourgeoisement, c'est la ville. Ce sont les villes qui effectuent des changements de zonage ou accordent des dérogations pour permettre aux projets immobiliers de se concrétiser. Ce sont les villes qui investissent pour développer le transport en commun ou revitaliser des artères commerciales comme l'a fait Québec en rasant le mail Saint-Roch. Et ce sont aussi elles qui ciblent les quartiers où intervenir, comme le fait Montréal en accordant des subventions pour rénover les immeubles résidentiels dans des secteurs décrépits, dont PAC Extension. D'un point de vue économique, ces actions sont non seulement logiques, mais souhaitables. Elles augmentent la valeur foncière des immeubles et donc les revenus des municipalités. Elles densifient les quartiers, ce qui permet l'arrivée de nouveaux services. Elles attirent des entreprises et des commerces, ce qui donne un nouveau souffle à des secteurs qui en ont bien besoin. Le problème, d'un point de vue social, est que ces interventions servent aussi de bougie d'allumage à l'embourgeoisement et au bout du compte à son effet le plus décrié, le déplacement de populations marginalisées. Cela se produit lorsqu'un propriétaire contourne les règles de la régie du logement du Québec et évince un locataire pour louer son appartement plus cher ou le convertir en condo, explique Damaris Rose. Il y a aussi les déplacements indirects. Quand un résident décide de partir parce qu'il ne se reconnaît plus ou ne se sent plus le bienvenu dans son quartier, un rappel que l'embourgeoisement est bien plus qu'une histoire de hausse de loyer. L'importance des mouvements forcés des populations ne fait pas l'unanimité dans le milieu universitaire parce que la question est complexe, même si certaines choses peuvent tout de même être mesurées. En 2016, des chercheurs de l'Institut national de recherche scientifique ont ainsi déterminé que 835 logements locatifs ont été perdus de 2003 à 2014 dans Hochelaga-Maisonneuve, le quartier montréalais où les débats sur l'embourgeoisement sont les plus houleux. C'est un chiffre impressionnant, 835, jusqu'à ce qu'on le compare aux 27 000 appartements présents dans le secteur. Cela peut paraître faible, écrivent les auteurs de l'étude, mais nous croyons qu'il s'agit d'un phénomène qui ira en s'intensifiant. « Ce n'est pas faible, c'est énorme », renchérit le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, élu en novembre 2017. « Chaque fois qu'un ménage est forcé de s'en aller pour des raisons économiques, c'est un drame. » L'élu, qui possède une microbrasserie dans Hochelaga-Maisonneuve, n'aime toutefois pas le mot « gentrification ». C'est un terme qui montre du doigt. Il faut sortir de ça, arrêter de dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Ce qu'il veut, c'est mettre en place des solutions pour s'assurer que l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier profite à tout le monde. Et la principale mesure, selon lui, est le logement social. Depuis 2005, la Ville de Montréal contraint les promoteurs de chaque construction de 100 logements et plus nécessitant une modification réglementaire à inclure 15 % de logements sociaux et communautaires à l'emplacement même ou ailleurs. Cela a permis la construction de 3540 appartements sur tout le territoire montréalais et des ententes ont été conclues pour l'ajout de 3000 autres. Pierre Lessard-Blais considère le seuil de 100 logements comme ridicule. Son parti Projet Montréal a promis d'augmenter la proportion à 20 % de logements sociaux et d'y assujettir toute construction de 5 logements et plus. Cela fait écho à l'une des solutions proposées en 2017 par l'Institut national de recherche scientifique dans une étude effectuée à la demande de l'arrondissement. La politique finale n'a toutefois pas encore été dévoilée par la nouvelle administration. Alors, c'est un problème, évidemment, qui existe, qui se répand dans plusieurs quartiers de Montréal. Ça avait commencé avec Pointe-Saint-Charles, je crois. Dans Schlager-Maisonneuve, ça se produit, dans Parc Extension également. Voilà. Il y a peut-être des solutions, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment la faute de personne. Des gens se déplacent. Et ce n'est même pas l'embourgeoisement en tant que tel ne signifie pas que les plus pauvres doivent quitter, mais peut-être que les circonstances font en sorte qu'ils le font.
Et voilà, ben c'est de plus en plus cher aussi.
Hein. Oui, c'est ça, exactement.
Voilà. Merci beaucoup. Je vous reviens avec un article que j'ai retrouvé sur Santé Magazine. Alors, article que j'ai trouvé sur le site Internet de Santé Magazine qui titre « Les perturbateurs endocriniens, c'est une menace pour notre intelligence apparemment ». Alors, on dit que des baisses de QI ont été observées par les chercheurs dans différents pays. C'est l'exposition aux produits chimiques présents dans notre environnement qui pourrait être en cause. L'expérience a été menée sur le cerveau de grenouilles, de têtards même pour être précis. Elle a consisté à exposer des embryons de l'espèce à un mélange de produits chimiques comparables à celui trouvé dans le liquide amniotique de la plupart des femmes enceintes, parmi lesquels le plus connu est le bisphénol A, présent, par exemple, dans les tickets de caisse, imaginez. Le résultat, publié le 7 mars dans le journal Scientific Report, montre que les neurones, chez cet têtard, sont plus petits. Réalisée au laboratoire du Muséum d'histoire naturelle à Paris, cette expérimentation pourrait paraître bien éloignée de nos préoccupations d'humains, nous qui ressemblons si peu à des bactériens. Mais contrairement aux apparences, nous avons un important point commun. L'hormone produite par la thyroïde, cette glande du cou située au-dessus du sternum. L'hormone thyroïdienne est identique, à la tombe près, chez les humains, les grenouilles, ou encore les requins, les oiseaux ou les souris. Et elle joue un rôle clé dans le développement du cerveau. Ainsi, nos travaux permettent d'établir scientifiquement le fait suivant. Quand des substances interfèrent avec l'hormone thyroïdienne chez les têtards, elles font planer également une menace sur l'intelligence chez les humains. Par quel raisonnement notre équipe a-t-elle conçu cette expérience et dans quel but exactement? On observe aujourd'hui plusieurs signes inquiétants. À travers le monde, d'effets néfastes touchant le cerveau, la progression des troubles du spectre autistique, le TSA, pour commencer. Il affecte aux États-Unis un garçon sur 42, avec une nette augmentation de l'incidence depuis le début des années 2000. Ce phénomène coïncide avec une augmentation d'un autre trouble neurodéveloppemental, celui du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle communément le TDAH. Or, les facteurs génétiques et l'élargissement des critères de diagnostic du TSA et du TDAH n'expliquent qu'en partie la progression. L'impact de facteurs environnementaux, qui sans doute exacerbe dans bien des cas des prédispositions génétiques, doit être examiné. Au même moment, on constate une baisse significative des QI dans plusieurs populations suivies de longue date par les chercheurs, comme des conscrits finlandais, des écoliers britanniques ou des adultes français. La publication régulière de données issues de ces différents pays en atteste. De nombreux scientifiques cherchent aujourd'hui l'explication de ces changements dans l'exposition des individus, tôt dans la vie, aux produits chimiques en général. Si cette hormone n'est pas sécrétée au bon moment, surtout dans la période périnatale, avant et après la naissance, l'enfant devient crétin, imaginez, au sens médical, naturellement, du terme. Peu de gens ont entendu parler de la pathologie qui se cache derrière ce terme utilisé couramment comme une injure. Le crétinisme se caractérise par un retard mental sévère, avec un QI inférieur à 35, sachant qu'il se situe chez la plupart des gens entre 85 et 115. Seules quelques personnes âgées se souviennent avoir côtoyé des individus souffrant de cette terrible maladie dont les causes sont connues depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, nous veillons à ce que chaque nouveau-né sécrète ou reçoive suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Il n'est pas rare d'entendre que le cerveau humain est la structure la plus complexe sculptée par l'évolution. En effet, il a fallu 450 millions d'années depuis la première apparition des vertébrés, des poissons cartilagineux, tels les requins et les raies, pour arriver à l'homme avec ses capacités de raisonnement uniques. Et dès les premiers vertébrés, l'hormone thyroïdienne, toujours elle, jouait déjà un rôle majeur dans plusieurs processus de la formation du cerveau. Or, la signalisation induite par l'hormone thyroïdienne est la plus vulnérable, parmi toutes, aux produits chimiques présents dans l'environnement. Ceci est particulièrement inquiétant pour trois raisons. Premièrement, la production mondiale de l'industrie chimique a été multipliée par 300 en volume depuis 1970, selon le Fonds Environnement des Nations Unies. Des pesticides, des plastifiants et autres produits sont retrouvés en quantité non négligeable dans l'organisme de la plupart des enfants à travers la planète, et dans celui des femmes enceintes aussi. Une grande proportion de ces molécules passe la barrière du placenta, se retrouve dans le liquide amniotique et peut donc interférer chez le fœtus avec l'action des hormones thyroïdiennes. Deuxièmement, l'étude d'une équipe néerlandaise publiée en 2016 a montré que le taux maternel d'hormones thyroïdiennes pendant les trois premiers mois de grossesse affecte le QI de l'enfant à venir. Pas assez d'hormones ou trop d'hormones ont également des effets néfastes, soulignant l'importance de la bonne quantité d'hormones au bon moment. Ces taux agissent même sur la structure du cerveau, diminuant la quantité de matière grise, les neurones au profit de celle de la matière blanche, le tissu de soutien des neurones. Il existe une troisième source d'inquiétude, et c'est une équipe américaine qui a observé que les enfants nés de mères fortement exposées à des substances chimiques telles que les PCB, un liquide huileux longtemps utilisé dans les transformateurs électriques, connu pour interférer avec l'action des hormones thyroïdiennes, perdent en moyenne 6 points de QI par rapport à ceux dont les mères sont faiblement exposées. Alors pour conclure, un constat ironique, on conseille aux femmes en fait enceintes de ne prendre aucun médicament sauf en cas d'absolue nécessité. Or, chaque femme enceinte, à la ville comme à la campagne, quel que soit son mode de vie, est exposée dans son quotidien à des centaines de produits chimiques sans rien y pouvoir. Alors on conclut l'article en disant « Qu'attend-on pour agir ?» Voilà, c'est un article que j'ai retrouvé sur le site de Santé Magazine, un site français d'ailleurs, mais très intéressant avec plusieurs articles aussi intéressants.
Alors, quelques brèves. En ce mois de mars, mois de la nutrition, les diététistes du Canada se regroupent autour du thème « Découvrez le pouvoir des aliments ». En effet, chaque jour, des études scientifiques rappellent les bienfaits santé de ces derniers. Plusieurs préviennent notamment le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Si les bienfaits d'un nutriment précis comme le calcium ou d'un aliment en particulier comme les bleuets, le chou, sont régulièrement soulignés, on étudie aussi les schèmes d'alimentation associés à une meilleure longévité et à la prévention des maladies chroniques. Souvent, c'est un ensemble de facteurs alimentaires conjugués qui offrent la meilleure protection. Rien ne sert d'intégrer un super aliment si le reste de notre alimentation n'est pas gagnant.
Alors, une autre brève, oui. Je vous parle d'un monsieur qui s'appelle Peter Thiel, qui est fondateur de PayPal, et avec son copain Patrick Friedman, activiste libertarien, ils ont eu une idée tout à fait originale. Ils veulent construire d'ici 2020 une île flottante à 300 mètres au large de la Polynésie française. Environ 200 personnes pourraient y vivre d'après leurs propres lois et sans lien politique avec la Polynésie, selon un accord signé avec le petit territoire d'outre-mer français. Les cofondateurs sont à la recherche d'investisseurs. Principal argument de vente, le taux d'imposition y sera fixé à 0 %.
Ah,
quand on a des sous, hein, puis on ne sait pas trop quoi faire.
Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Franceline Nieuviard et Roger Roy. Nous, la semaine prochaine, on fait relâche hein, pour la période de Pâques, en fait. Et on vous retrouve le lundi 9 avril. Reste à l'écoute, suis l'émission Le quotidien des quotidiens avec François Brodeur. On vous souhaite une excellente semaine. Mon nom est Claude Blas. Bien heureux d'avoir été là avec vous.